12h30 sur France Culture, l'heure du journal.
Bonjour Emmanuel, bonjour à
toutes
et à tous.
Bonjour Thomas Colizel.
Parce que le temps est désormais compté, les personnels hospitaliers sont de nouveau appelés à manifester partout aujourd'hui pour réclamer davantage de moyens que ceux déjà mis sur la table par l'État. Pendant ce temps, et tandis que le gouvernement compte lui sur le rebond de la croissance dès l'an prochain pour réduire les effets de la crise, la Cour des comptes alerte ce matin sur la menace pour la France d'une dette publique qui ne serait pas maîtrisée. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Mauritanie au sommet du G5 Sahel. La France se félicite des efforts accomplis dans la lutte contre les groupes armés en Afrique de l'Ouest, même si la situation reste extrêmement fragile. Enfin, nous irons au Portugal, qui à l'instar de plusieurs autres pays d'Europe, voit aujourd'hui le nombre de cas de contamination au Covid-19 repartir à la hausse. Tandis que leur ancienne ministre de tutelle, Agnès Buzyn, défaite au second tour des municipales à Paris, poursuivra son chemin de croix aujourd'hui à l'Assemblée, auditionnée par la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire. Les personnels hospitaliers sont eux de nouveau appelés à battre le pavé et plus encore battre le fer tant qu'il est chaud après le succès de leur mobilisation du 16 juin dernier. Alors à quelques jours de la clôture du Ségur de la Santé, l'objectif affiché reste le même, peser sur les décisions politiques. Hier déjà, les médecins n'avaient pas de mots assez forts pour crier leur déception après les propositions de revalorisation salariale faites par le ministre de la Santé Olivier Véran. 300 millions d'euros, loin, très loin du plan formulé par les représentants syndicaux, lesquels espèrent toujours par ailleurs obtenir davantage que les 6 milliards déjà mis sur la table par le gouvernement. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors de Lorient à Nancy, de Toulouse à Mont-de-Marsan, des dizaines de rassemblements sont donc prévus ce mardi, le plus souvent d'ailleurs devant l'hôpital local ou l'agence régionale de santé. Et puis à Paris, Tara, le cortège s'élancera à 14h de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce.
Oui, le Val-de-Grâce, c'est tout un symbole. L'hôpital militaire de très haut niveau a fermé en 2016 et plus largement le service de santé des armées a perdu les deux tiers de ses établissements ces dernières années. C'est donc aussi contre cela que se battent les manifestants aujourd'hui, contre la fermeture des lits. Or, au sein de la PHP, Bichat et Beaujon sont dans la balance et devraient céder la place à un hôpital nord flambant neuf qui sera donc construit. Mais au passage, les syndicats calculent que l'assistance publique y perdra 400 lits. Bref, c'est la troisième revendication jugée urgente et négociée au Ségur. Pas de fermeture de lits dans les hôpitaux et pour l'instant, le ministère n'a rien répondu. La deuxième revendication, c'est l'embauche de 100 000 agents dans les hôpitaux, le double pour les EHPAD. Là non plus, aucune avancée écrite pendant le Ségur. Restent les salaires avec l'enveloppe de 6 milliards annoncée par le ministre mercredi dernier. C'est d'ailleurs la seule fois que les syndicats l'ont vu en personne. Il a proposé à ce moment-là une sorte de prime d'intéressement qui indigne la CGT. J'ai écouté son négociateur Christophe Bourdillon.
Mais pour nous, c'est un casus belli que la proposition soit faite de cette façon-là. L'intéressement, c'est une connotation qui est une connotation extrêmement forte dans les entreprises privées pour lesquelles l'intéressement est assis sur le bénéfice. En l'occurrence, à l'hôpital, le bénéfice est un élément qui est absolument contraire et en totale opposition à ce que sont les professionnels et à ce qu'on peut ressentir les uns et les autres.
Tous les syndicats exigent donc le retrait de cette prime symbolique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours les 300 euros nets d'augmentation salariale par mois pour leurs 130 professions, ce qui ferait au moins 8 milliards d'euros pour la seule fonction publique hospitalière et son 1 200 000 agents. Or, Olivier Véran propose 6 milliards pour l'instant et il inclut dedans le privé et les futures revalorisations de carrière publique. Autant dire, Thomas, que le compte n'y est pas.
Merci Tara Schlegel. Alors la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va, on le sait, conduire la France à une récession inédite cette année, avec une chute du PIB qui pourrait atteindre 11% et une dette publique qui devrait gonfler pour s'élever à plus de 120% du produit intérieur brut. C'est ce qui ressort des prévisions du gouvernement. Alors celui-ci a d'ores et déjà prévenu qu'il comptait sur le rebond de la croissance pour réduire à terme l'endettement et qu'il n'augmenterait pas par ailleurs les impôts pour rembourser la dette. Sauf qu'il ne faut pas tout attendre de la croissance, prévient ce matin la Cour des comptes dans son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques. Les sages de la rue Cambon, Annabelle Grelier, qui ont établi 3 scénarios de reprise de l'activité.
Les sages de la rue Cambon ont établi 3 scénarios de reprise de l'activité et même le plus optimiste ne prévoit pas un retour au niveau d'endettement d'avant la crise, soit un peu moins de 100% du PIB d'ici à 2030. Alors pour la Cour, il serait en effet imprudent de tout attendre de la croissance, ce serait attendre un miracle. Le gouvernement devrait plutôt engager un effort de redressement structurel des finances publiques dès que possible. Un effort qui ne devra pas être trop brutal, la Cour des comptes désormais présidée par le socialiste Pierre Moscovici ne plaide pas pour une politique d'austérité, mais une politique pragmatique. L'effort devra donc s'inscrire dans le temps long, précise la Cour, qui appelle le gouvernement à définir une trajectoire dans une loi de programmation des finances publiques, au plus tard, au printemps prochain. Les sages appellent ainsi le gouvernement à faire un examen en profondeur des dépenses publiques à venir, en privilégiant les dépenses d'investissement, notamment pour la transition écologique et la santé. Des efforts accrus devront être faits sur d'autres dépenses, à moins d'envisager des hausses d'autres prélèvements. Même si le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse de la fiscalité, la Cour des comptes propose tout de même d'y réfléchir en suggérant notamment la suppression de niches fiscales. Enfin, il y a un risque sur la soutenabilité de la dette en cas de remontée des taux, prévient la Cour, ainsi que d'aggravation de l'écart avec les autres pays de la zone euro, en particulier l'Allemagne. Dans cette hypothèse, si elle n'avait pas entre-temps diminué son endettement public rapporté au PIB, la France se retrouverait dans une situation très difficile. Le troisième scénario pour la Cour, la catastrophe pour notre pays, soit l'envolée encore plus massive de sa dette et les difficultés pour la financer.
Alors, on l'a dit, les économistes, mais aussi le gouvernement, scrutent aujourd'hui le niveau de la consommation en France, parce qu'il s'agit là du principal moteur de la croissance économique et donc d'un élément clé pour la reprise. Or, si la consommation des ménages a nettement rebondi au mois de mai par rapport à celle d'avril, déconfinement oblige, elle reste toutefois encore inférieure à son niveau de février, comprenez, avant la crise sanitaire. C'est ce qui ressort ce matin des statistiques de l'INSEE, et c'est particulièrement le cas pour les achats de biens durables, matériel de transport, équipement du logement, mais aussi des dépenses en habillement. Et s'agissant justement du secteur de l'habillement, la crise du coronavirus aura précipité nombre d'entreprises dans des restructurations lourdes de conséquences pour l'emploi. Quand la marque de prêt-à-porter Celio a demandé à être placée sous procédure de sauvegarde, Nafnaf et Camailleux ont toutes deux été placées en redressement judiciaire. Idem pour la Halle, dont le propriétaire, le groupe Vivarte, a annoncé hier qu'elle connaîtrait le nom de son repreneur le 8 juillet prochain. Enfin, les salariés de l'enseigne de chaussures André, placé là encore en redressement judiciaire, sont appelés eux depuis ce matin à faire grève pour dénoncer la casse sociale et les conditions de travail depuis le rachat de l'enseigne par le groupe Sparto. Reste que si cette crise sanitaire ne saurait être responsable de tout, certaines entreprises étaient en effet déjà en difficulté bien avant l'épidémie ou quand la Covid n'aura fait en somme qu'achever un secteur agonisant, ainsi que l'explique Gilda Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, interrogé par Anne Lorchois.
Le choc qu'a constitué le Covid pour la distribution d'habillement est un choc sans précédent. En plus, c'est un choc qui est venu dans une période difficile, c'est-à-dire que de façon quasiment structurelle, la distribution de produits de mode a connu, et notamment dans le vêtement, principalement, a connu des difficultés depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'entre 2007 et 2019, le marché a perdu 17% de sa valeur. En plus de ça, vous avez eu le problème des gilets jaunes qui a été quand même un facteur aggravant. Vous avez eu aussi les grèves. Et là, le virus avec les magasins qui ont eu l'obligation de fermer, ça a été un choc terrible. Et puis vous avez également le commerce en ligne qui est un relais de croissance mais qui, dans les premiers temps, n'a pas vraiment fonctionné. On parle beaucoup d'enseignes qui ont des difficultés sur la période récente. Il est vrai que la plupart de ces enseignes sont positionnées sur le segment du moyenne gamme. C'est pas écrit dans le marbre que ce positionnement-là fonctionne mal, mais si vous voulez, beaucoup d'enseignes de ce positionnement-là ont sans doute ouvert de façon excessive pendant une certaine période des magasins. C'est-à-dire que face à une demande qui était atone, voire en recul, beaucoup d'enseignes ont continué à ouvrir des magasins. Il y a eu une correction qui a dû être faite, on la situe autour de 2015, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignes ont été contraintes de fermer des points de vente dès 2015 de façon à s'ajuster donc à la réalité du marché. Et donc sur ces segments du moyenne gamme, on peut dire qu'il y a une offre sans doute trop abondante.
Voilà, Gilles Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Il répondait à Anne-Laure Chouin, un entretien à retrouver en longueur sur notre site franceculture.fr. Enfin, j'ajoute que c'est aujourd'hui la date limite de dépôt des offres de reprise d'Alinéa, l'enseigne d'ameublement qui compte une trentaine de magasins et quelques 2000 salariés, est en redressement judiciaire depuis le 13 mai dernier. La justice iranienne a confirmé en appel ce matin la condamnation de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelra à une peine de prison de 5 ans pour atteinte à la sécurité nationale. Téhéran, qui ne reconnaît pas sa double nationalité, a déjà rejeté à de nombreuses reprises les appels de la France en faveur de sa libération. Voilà plus d'un an maintenant que l'anthropologue et directrice de recherche au CERI de Sciences Po est enfermée dans les geôles de la République islamique. 6 mois après avoir décidé d'intensifier leur effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région, les pays du G5 Sahel et la France se retrouvent en Mauritanie aujourd'hui pour faire le point sur leur combat contre les djihadistes. Or, en dépit des pertes infligées à l'ennemi au cours des 6 derniers mois, force est de constater que les quelques progrès accomplis sur le front militaire se trouvent contrebalancés par la précarité rémanente de la situation, qu'il s'agisse de la réconciliation comme de la reconstruction politique. Non seulement les accusations d'exactions perpétrées par les armées nationales contre les civils se sont multipliées depuis le sommet de Pau, mais la communauté internationale suit par ailleurs avec préoccupation les évolutions politiques. Et pourquoi ? Parce que cette année 2020 prévoit des échéances électorales déterminantes dans chacun des 3 pays que sont le Burkina, le Niger et le Mali. Au Burkina, notamment, des zones entières menacent d'être privées de scrutin présidentiel. Quant au Mali, son président est aujourd'hui confronté à une importante contestation intérieure dont l'issue, pour l'instant imprévisible, inquiète ses voisins ouest-africains et ses alliés. Ou dit autrement, Nathalie Hernandez, en dépit de quelques succès militaires sur le terrain, la situation reste particulièrement fragile.
La venue du président français à Nouakchott, selon l'Elysée, est la marque d'une solidarité renouvelée. Elle va permettre d'entériner les progrès réalisés avec les pays du G5 Sahel. À titre d'exemple, l'élimination de l'émir d'Al-Qaïda, un État islamique au Grand Sahara affaibli, et parallèlement la reconquête de 2 postes militaires, ce qui a permis le retour de l'État et de la population à Tiloa au Niger et à la Bézanga au Mali. C'est aussi une plus forte mobilisation des Européens. Pour preuve, la venue aujourd'hui du Premier ministre espagnol et la participation par visioconférence de la chancelière allemande et du président du Conseil italien. Les Nations Unies devraient, elles, confirmer la poursuite de leur mission. Ces avancées restent toutefois fragiles, estime la présidence française, et elles peuvent être mises en cause si la dynamique politique ne suit pas. En particulier au Mali, qui peine à reprendre le contrôle de la totalité de son territoire et qui voit son président de plus en plus contesté. Pour Paris, la reprise de la mise en œuvre des accords de paix d'Alger, signés il y a 5 ans entre gouvernement et rebelles, doit aujourd'hui redevenir impérativement une priorité politique sous peine d'enlisement.
Alors qu'en Belgique, comme dans plusieurs autres pays d'ailleurs, la mort de l'afro-américain George Floyd, asphyxié fin mai par un policier blanc à Minneapolis, aura ravivé le débat sur les violences de la période coloniale. Voilà plusieurs jours déjà que la presse nationale brossait des retours nuancés sur l'histoire liant l'ancienne colonie au Congo, une histoire faite de souffrances aussi méconnues que polémiques. Or ce matin, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'ex-Congo belge, devenu Zaïre, puis République démocratique, du Congo, eh bien le roi des Belges, Philippe, a présenté pour la première fois dans l'histoire de son pays ses plus profonds regrets pour les blessures du passé dont la douleur, dit-il, est aujourd'hui ravivée par la discrimination encore présente dans nos sociétés. Le nombre mondial de cas de contamination au nouveau coronavirus a dépassé cette semaine la barre des 10 millions, et tandis qu'en Europe, bon nombre de pays qui ont été les plus durement touchés par la maladie poursuivent leur sortie progressive des mesures de confinement, certains pays font état de nouveaux foyers d'infection. C'est le cas par exemple en Allemagne, mais aussi dans les Balkans, où la situation sanitaire serait au moins aussi mauvaise qu'au printemps dernier et s'aggraverait même de jour en jour. Enfin, au Portugal, considéré pourtant jusqu'ici comme le bon élève dans la lutte contre l'épidémie, là-bas aussi, le nombre de nouveaux cas quotidiens est remonté ces derniers jours. Des foyers sont apparus notamment dans la capitale et sa périphérie, obligeant les autorités à imposer de nouvelles restrictions. Et c'est ainsi que dans plusieurs cantons de la région de Lisbonne, 700 000 habitants seront appelés à rester chez eux à partir de demain, et ce pour une durée de 15 jours. Reportage dans la capitale, signé de notre envoyé spécial Omar Waman.
Dans le quartier populaire de Santa Clara, au nord de Lisbonne, on se prépare à un reconfinement dans l'inquiétude. Elena, gérante d'un salon de coiffure.
Nous sommes déjà restés très longtemps à la maison, sans travailler. Je n'ai reçu aucune aide de l'État. J'espère que je n'aurai pas à fermer de nouveau. Ce serait vraiment triste.
La décision de reconfiner une partie de la population a été prise après un relâchement qui s'est soldé par une augmentation ces derniers jours du nombre de cas. Isabelle, une Française installée à Lisbonne depuis 20 ans.
Moi, j'ai remarqué depuis qu'on a été déconfiné que bon, on va dans les parcs, tout le monde est ensemble, dans les bars, tout le monde est ensemble, sans masque, dans les plages, le relâchement a été partout.
Et pour endiguer la propagation du virus, les autorités ont décidé, parallèlement à ce reconfinement ciblé, de rétablir plusieurs restrictions, comme la fermeture à 20h des bars de la capitale afin d'éviter les attroupements. Des mesures saluées par Fernando Nobre, médecin et directeur d'une ONG humanitaire.
À mon avis, absolument raison. Et c'est une manière d'isoler un foyer infectieux et empêcher qu'il se propage et qu'il puisse donner lieu à une deuxième vague. C'est ça la crainte que tout le monde a, d'une deuxième vague.
Une situation qui inquiète le gouvernement portugais au plus haut point alors que débute la saison estivale.
On termine ce journal avec un mot de la couleur du ciel cet après-midi, couvert au nord et du soleil au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.